Il est 19h sur le 100.5 de Radio G et l'heure que vous voulez quand, si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr, c'est l'heure de la case de Seb. Au programme ce soir, on va vous parler de renards, on va vous parler de l'Inde, on va vous parler du Canada, on va vous faire voyager un petit peu, on va même vous faire voyager dans le temps puisqu'on va vous parler du Paris des barricades. Je suis perdu, je suis très très nul en histoire. On va vous faire voyager aussi un petit peu dans le fantastique. Attention, j'ai générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue à tous dans cette nouvelle case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. C'est au micro, nous sommes ensemble pendant une heure et j'espère que nous allons passer un bon moment. Et j'ai le plaisir ce soir encore une nouvelle fois d'être accompagné par Luc. Comment tu vas ?
Ça va, très bien.
Pas trop de jet lag ?
Pas trop de jet lag, non, pas trop de jet lag, mais c'était l'Ouest c'est toujours bien et New York c'est encore mieux.
Alors que t'es parti à New York et tu nous parles du Canada ce soir.
Exactement.
C'était pas très très loin, c'était des recherches exprès ou
Oui, c'était pour des repérages pour ton émission, bah oui.
Quel talent et quelle dévotion, Luc. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux qu'on...
On peut commencer.
Moi j'aime bien te mettre dans le bain tout de suite.
Et bah écoute, voilà, ça démarre. Et bah écoute...
Alors de quoi tu nous parles?
Ce soir, moi je vais te parler d'une BD qui vient de sortir, chez Sarbacane. Et donc toujours la même thématique, adaptation de romans en bande dessinée. Ce qui m'intéresse moi dans ce travail un peu que je fais, c'est d'essayer de trouver les romans improbables. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut tout adapter ? Et particulièrement ce soir, ce dont je vais parler, c'est un roman d'un auteur canadien de l'Ontario qui s'appelle Richard Wagamese.
Ok.
Voilà, qui est mort maintenant, il avait 62 ans, il est mort récemment. Il a publié juste 13 livres, donc il n'a pas une grosse bibliographie. Il a été animateur radio, il a fait pas mal de choses dans sa vie et il a publié donc des romans. Et le roman qui vient d'être adapté donc chez Sarbacane, dont j'ai parlé là, c'est un roman qui s'appelle « Les étoiles s'éteignent à l'aube ».
Alors, je t'interromps rapidement. Je précise que c'est toi qui as sélectionné cet album. Hein. C'est pas moi qui te l'ai proposé
pour
une fois.
Non, tu m'as pas imposé. C'est moi qui me le suis imposé. Je me le suis imposé d'abord parce qu'il sort à l'instant. Enfin, c'est une toute nouvelle, une nouveauté. Et puis, quand j'ai vu apparaître le nom de l'auteur, Wagamese, qui est un auteur que j'aime beaucoup, pour plein de raisons, parce que je suis passionné par la littérature justement américaine, nord-américaine, y compris le Canada. Et Richard Wagamese fait partie des auteurs que j'aime beaucoup, et ce roman Les étoiles s'éteignent à l'aube fait partie des romans que j'aime beaucoup pour plein de raisons. L'adaptation, elle a été faite par Vincent Turan. Je dis bien Turan et pas Turam, comme le footballeur, c'est bien Turan, et un très jeune auteur puisqu'il a que trois publications à son actif aujourd'hui, dont un roman de Stefan Zweig qu'il a adapté, qui s'appelle Transatlantique. Mais là, il s'est attaqué à quelque chose de gros, de lourd, de dense.
Ouais, déjà, Stefan Zweig, c'est pas forcément le plus rigolo des auteurs à adapter. Hein.
C'est pas le plus léger. Bon, il a choisi Transatlantique. C'est plutôt un roman, on va dire, où il y a de l'activité. Donc ça va encore. Là, dans Les étoiles s'éteignent à l'aube, déjà de quoi ça parle. En fait, il s'agit d'un jeune garçon. Frank Starlight, le nom, lumière d'étoile, et ça renvoie au titre de l'album, les étoiles s'éteignent à l'aube. Donc déjà, c'est la synchronie entre le roman et la BD, c'est exactement le respect. Ce jeune garçon, donc Franck, c'est un métis, il est moitié Ojibwé. Les Ojibwé, c'est une tribu indienne de l'Ontario, et moitié blanc. Et il veut savoir d'où il vient. Pour cela, tout au long du roman, il va conduire son père, qui est alcoolique, atteint d'un cancer du foie, en phase terminale, vers sa dernière demeure, au sommet d'une montagne, le regard tourné vers l'est. Et pendant ce long périple qu'il va faire à cheval, le père étant sur le cheval, le jeune garçon étant à pied, et le père, compte tenu de son état de santé, étant attaché au cheval parce qu'il est incapable de rester en selle, le jeune garçon va découvrir l'histoire de son père et qui était sa mère. L'écriture de Wagamese, elle est très particulière. C'est toute une écriture en économie de moyens. Il n'y a vraiment pas d'effet. Il n'y a pas de... c'est pas des envolées lyriques. C'est vraiment très efficace. Et les dialogues sont à l'avenant. C'est bref et sec. Franck, le jeune garçon, peut d'ailleurs, par ces dialogues très secs, peut paraître presque cynique. Tant il paraît désabusé. La problématique est posée. Peu de mots, peu d'action, beaucoup de paysages.
Tout d'abord, très contemplatif.
Très contemplatif, c'est hyper contemplatif, mais c'est pas chiant. C'est ça qui est impressionnant dans le travail de Wagamese et dans le travail de Turan.
C'est toujours l'écueil, en fait, d'avoir du contemplatif, c'est d'avoir des paysages super beaux, mais de s'ennuyer un peu.
Tout à fait. Et c'est pas le cas ni dans l'option qu'a retenu Turan, ni dans le roman de Wagamese. Le roman de Wagamese est structuré autour de 5 ou 6 grands événements qui marquent le voyage, le périple, et Turan a choisi d'en faire des chapitres avec des inserts de pages blanches. Déjà, le roman, le bouquin en lui-même, il est beau. La couverture est vraiment magnifique, et je pense que quand on la voit, on comprend de quoi parle le roman. Paysages très vaporeux, des couleurs intermédiaires, on sent déjà qu'on est effectivement dans le voyage, dans la pensée.
Le paysage qui se délite à l'horizon, qui se confond avec le soleil qui se couche.
Ouais.
Tout va bien avec le titre.
Alors,
et je pense que le sujet, je le vois venir vite.
Ouais. Et c'est pas le soleil qui se couche, c'est le soleil qui se lève. Et c'est très important.
C'est différent.
Les étoiles s'éteignent à l'aube, et c'est le sommet du roman. Cette couverture, c'est une image intégrale, en fait, hein, recto verso.
Ah oui, il faut ouvrir complètement l'album pour voir la plénitude de l'image.
Le travail de Turan, c'est un travail au crayon gras ou à la palette graphique, qui a pris l'option crayon gras. Mais c'est un travail il y a de la matière dedans, il y a du grain, il y a de la matière. C'est très esthétique, très beau. Et dès que je commence à m'évader, moi ça commence.
Ça donne
une texture, en fait, et une vraie texture, une vraie matière, et ça donne envie de toucher le livre. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment réussi chez Turan. Et c'est pas un papier couché brillant, c'est un mat, donc il y a vraiment pas de reflet quand on le regarde. Vraiment, c'est un beau livre. Là, Vincent Turan donc relève un défi particulier, puisque c'est à la fois un voyage qui va durer quelques jours, pas très longtemps, mais c'est aussi la vie d'un gamin de 5 ans à 16 ans. Et il va faire vieillir, on va voir le gamin à 5 ans, et on va voir l'adolescent à 16 ans, le jeune adulte à 16 ans, tout comme on va voir le père au moment où le gamin a 5 ans, il est en pleine santé, et au moment où il a 16 ans, le père est complètement au seuil de la mort, il est complètement fatigué, épuisé, et Turan réussit bien à faire parcourir le temps, à nous faire vivre le temps. Au niveau du texte, comme dans toute bonne BD, Vincent Turan ne reprend que les dialogues, et dans ce roman, il n'y en a pas beaucoup. Tout le reste, toute la matière poétique du texte, du roman, Turan la dessine. Cela donne des pages entières sans texte, juste des successions d'images avec des choix de polychromie spécifiques. On est des fois dans des dominantes de vertes, des fois dans des dominantes d'orange, de marron ou de bleu. Moi, un des trucs que j'aime bien en BD, c'est comme ça, on se refait pas. Ce que je cherche dans les BD, mais que je cherche physiquement, c'est quand le dessinateur s'attaque à une pleine page. Voilà, j'aime bien avoir une planche entière consacrée à un dessin unique. Dans ce bouquin, ben, y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule, à part la couverture, dont j'ai dit que la première et la quatrième étaient une image unique. Et il n'y en a qu'une seule, c'est la mort du père, on peut le dire, hein, ça n'a pas voilà, c'est une pleine page. Et on comprend dans l'option qu'a retenu Turan, il y met toute l'immensité du monde, la solitude de Franck et la beauté d'un matin. On a tout ça dans une seule image et je trouve que c'est puissant, ça nous emmène dedans. On part avec lui, il n'y a pas de texte, il n'y a pas un mot. Il y a juste un mot sur la page précédente et c'est le gamin qui dit à son père « papa ». Et c'est tout. Donc on est face à quelque chose, un moment de bascule dans le bouquin, mais qui est vraiment magnifique.
Puis qui est plein d'émotions. Hein. Vraiment, on sent toute la tristesse de ce garçon qui perd son père. Quoi.
Ouais. Alors, Vincent Turan ne respecte pas le roman complètement. Il s'autorise des libertés avec ce roman, au point peut-être même d'en transformer peut-être le sens. Le père du Franck, il a un ami. Cet ami s'appelle Jimmy. Tous deux partent faire la guerre en Corée. Au cours d'une reconnaissance, le père de Franck est amené à tuer Jimmy, gravement blessé, pour que ses cris ne les fassent pas repérer. Il raconte cet épisode à Franck. Cette scène est essentielle dans le roman. Elle participe de la compréhension qu'a Franck de son père, mais Vincent Turan l'évacue en une seule case, alors que dans le bouquin, elle prend au moins 20 pages. Il l'évacue tellement que l'aveu du meurtre de Jimmy est transformé en disparition. Qu'est-ce qui reste de tout cela ? Un roman graphique magnifique que l'on peut simplement feuilleter pour le plaisir des images, mais qu'il faut lire impérativement pour la beauté simple et évidente de l'histoire. C'est un roman d'initiation extraordinaire, pas tant une initiation de Franck à la vie. Le jeune garçon maîtrise tous les gestes essentiels pour vivre et survivre dans la nature, mais c'est une initiation au sentiment dont il semble épargné. Une initiation à la rédemption et au pardon, dont on comprend qu'elles ne sont pas adressées qu'à son père, mais qu'il les a faites siennes pour lui-même. De ce long périple avec son père, il s'enrichit de ces deux sentiments. Il devient plus grand intérieurement, plus complet quand il retourne dans la ferme chez son père adoptif. L'album s'intitule « Les étoiles s'éteignent à l'aube ». Il est de Vincent Turan, adapté du roman de Richard Wagamez et publié aux éditions Sarbacane. Et c'est un album que je recommande chaudement.
Bah écoute, en tout cas, ça donne envie d'aller voyager dans ces pages. Alors, je dirais que l'intérêt, on parlait de contemplation tout à l'heure, avec la BD, c'est qu'on va vraiment avoir un impact visuel et on va pouvoir prendre le temps de se laisser porter, même si j'imagine que comme il y a peu de texte, on pourrait la dévorer très rapidement, mais ça n'aurait pas forcément l'intérêt.
Mais tout à fait, je pense que... mais c'est là où Turan fait un beau travail. C'est qu'en fait, il nous empêche de la dévorer. C'est-à-dire qu'on est, dès le départ, happé par la qualité du dessin. Et dès le départ, on va chercher on va regarder l'image. En fait, on va la regarder, on va essayer de comprendre et on va se laisser porter par ces images sans vouloir aller trop vite. Je dirais presque, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé, en le mettant en suspens, c'est-à-dire qu'en se freinant presque quoi. Non, c'est vraiment un beau travail, ouais.
Écoute, merci encore une fois Luc, ça donne vraiment envie.
Ouais. Et la prochaine fois, on parlera d'une nouvelle BD qui vient de sortir, une adaptation d'une pièce de théâtre d'Ibsen qui s'appelle Un ennemi du peuple et qui vient de sortir chez Air Libre. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, je ne l'ai pas encore reçu, mais rien qu'Ibsen en BD, ça me surprend tellement que voilà, j'ai envie d'aller voir ça.
Bah écoute, j'ai hâte d'écouter ça et de découvrir ça en tout cas. Pour continuer, moi je vais avoir deux possibilités. Soit je reste dans la même thématique, soit, alors j'ai deux, ce sera toujours la même thématique, soit ce sera une adaptation d'un roman, en l'occurrence d'une nouvelle en BD, soit on reste sur la thématique de l'enfance. Qu'est-ce que tu préfères que je fasse ?
Eh bien, allons sur l'enfance, on verra la BD, on verra l'adaptation après.
Ok. Alors, sur l'enfance, il s'agit de 16e printemps de Yoon Bo. Alors, je n'ai pas documenté, mais je pense que le nom doit être d'origine asiatique quand même, qui est publié aux éditions Delcourt. C'est une scénariste et dessinatrice qui réside à Angoulême et qui est née en Corée du Sud. Donc déjà, on va voyager aussi. Je te la passe pendant que je vais commenter. Ouais. Je trouvais ça très très joli. C'est un ouvrage assez épais qui est au format à l'italienne. Et on va nous parler de l'enfance. C'est l'histoire d'une jeune renarde, en fait, qui va être abandonnée, je suis désolé pour le terme qui est un peu fort, mais par son papa, chez son grand-père et sa tante. Ses parents sont visiblement en train de se séparer, et elle, elle est toute petite. Ses parents étaient tellement obnubilés et encombrés, on va dire, dans leur, leur tracas quotidien qu'ils l'avaient déjà pas mal délaissée. Et ils l'emmènent chez ce, ce grand-père et cette tante, une vieille fille qui vit au crochet de son papa, qui vont pas forcément avoir envie de s'occuper d'elle non plus. Et du coup, elle ne connaît pas vraiment ce que c'est que d'avoir un anniversaire. Alors, moi, c'est le genre de choses, quand on a des enfants, qui me font le cœur, mais c'est assez tragique. Et elle ne va pas forcément se fâcher avec ses grands-parents, mais elle va accepter sa vie en ronchonnant, bon gré mal gré. Et puis, un jour, elle va rencontrer... donc, elle vit au village des renards. Et dans ce village des renards, elle va tomber sur une serre avec des fruits rouges en fait qui sont en train de pousser. Et elle va tomber sur la propriétaire de cette serre qui est une petite poule. Une poule qui a fui son village, le village des poules, pour aller vivre dans le village des renards. Et pourquoi elle a fui en fait, c'est que c'est une poule qui ne voulait pas d'enfants. Alors que tout le monde dans le village voulait absolument des enfants. Et du coup... Ben, cette petite renarde et cette petite poule vont se trouver l'un avec l'autre. La renarde va se prendre d'amitié puis d'amour pour cette poule qui va la prendre littéralement sous son aile et l'aider à grandir. C'est une histoire qui est hyper touchante, malgré le début qui est quand même hyper triste quand vous avez des enfants. Encore une fois, je me suis mis à la place des miens. C'est superbement dessiné. C'est très agréable, c'est très tendre. On voit cette jeune renarde qui va, alors que c'est des animaux anthropomorphiques, hein, je pense que vous l'aviez deviné, mais qui va grandir petit à petit, qui va s'affirmer, qui va se rendre compte que ce père qu'elle attend, puisqu'elle attend plus sa maman qui est déjà partie et qui l'a complètement abandonnée, ce père qu'elle attend, il faut un moment qu'elle arrête de l'attendre, que cette famille qui est sa vraie famille, il faut un moment qu'elle arrête de compter sur elle et puis qu'elle passe à autre chose. Et c'est très touchant, c'est très beau. Graphiquement, c'est très détaillé. On oublierait presque que ce sont des animaux. Les interactions sont très très bien pensées. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un petit cahier graphique à la fin qui montre un petit peu les études qui ont pu être faites pour les personnages, et on se rend compte que les choix qui ont été faits, c'est des choix qui marchent mieux que certaines autres choses. Alors, la poule, elle est passée par différents stades, et le stade assez agréable qui est là marche très très bien. Et c'est vraiment une très belle histoire. C'est un conte pour enfants avec des personnages qui évoluent, qui ont quasiment tous une conclusion narrative. Alors, je ne sais pas si j'en ai loupé, mais j'ai vraiment très très apprécié. Les couleurs sont douces. Il y a vraiment tout qui colle bien dans cet album. C'est vraiment très très drôle. C'est un humour très doux. C'est pas, on va pas s'esclaffer beaucoup. C'est un humour de compassion, un humour d'émotion qui marche très très bien. Alors, je sais pas ce que t'en penses du coup.
Moi, j'aime le voir. Là, je le découvre. D'abord, il est séduisant. Enfin, c'est un album séduisant, comme ça. C'est-à-dire qu'on a envie de le prendre. Et je me faisais la réflexion en le feuilletant rapidement. Je me dis, c'est étrange. Je ne suis pas surpris que ce soit quelqu'un d'origine coréenne qui l'ait fait. Enfin, on reconnaît une esthétique, effectivement, dans la douceur ou dans la structure des dessins, on reconnaît une esthétique très fine. Enfin, c'est vraiment le dessin est particulièrement précis. Et là, moi, ça me donne envie de le lire. Rien qu'en le feuilletant comme ça, ça me donne envie de le lire. Même si, d'après ce que tu en dis, de toute évidence, il s'agit d'un album pour jeune public, quoi. Mais ça, on s'en fout un peu.
Les deux, en fait.
Ouais,
parce qu'un adulte va quand même y trouver beaucoup de choses.
Et moi, ça me donne envie de lire parce que je... Enfin, voilà, c'est comme ça, de but en blanc. Bon, c'est Delcourt qui publie, donc il y a un vrai travail derrière d'édition. Mais c'est vraiment très, très, très beau. Hein. Moi, c'est très beau, la couverture.
Le fond et la forme fonctionnent bien. Le fait que ce soit un format à l'italienne aide aussi à avoir cet aspect un petit peu livre de conte, on va dire. Les entourages, en fait, comment on appelle ça, les trucs dans les angles sur la couverture.
Je ne sais plus.
L'ouvrage est vraiment très agréable. Et ce que tu disais sur la finesse du dessin, en fait, pour donner de l'émotion dans un ouvrage, souvent on va avoir soit de la couleur directe, du crayon gras, de l'aquarelle, pour donner de la chaleur, de l'émotion. Là, on n'est pas dans ces techniques-là. Je pense que j'aurais tendance à dire que c'est du numérique. Encore une fois, je suis pas assez doué pour ça. Mais on trouve beaucoup d'émotion, mais dans la finesse. Mmh. Chose qui est quand même assez peu courante pour les albums plutôt orientés jeunesse, en fait.
Mmh. Avec une option, il n'y a pas de filet autour des images. Il n'y a pas de cadre au niveau des images.
Le cadre n'est pas dessiné, ouais.
Voilà. Et je trouve que ça donne cette douceur qui pourrait être coincée dans un cadre. En fait, elle donne de l'ouverture aux images et je trouve ça très, très agréable de le feuilleter comme ça, sans cette contrainte du filet qui va cerner l'image et qui va la fermer complètement.
En tout cas, une belle découverte. Oui. Quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé un petit peu comme tu disais, Luc. Moi, j'ai trouvé très joli à prendre. Et puis, je me suis dit, je le lirai. J'ai un peu l'habitude de les poser dans un coin et puis de les lire la motivation. Puis, à un moment, je me suis dit, tiens, j'ai quoi à lire? Et il est venu tout seul dans ma main. Et j'ai fait, bon, allez, go, on y va. Et je l'ai lâché que quand je l'ai eu fini.
Ouais, ouais.
C'est sans doute l'apanage des bons albums.
Oui, ça m'étonne pas, oui.
Je redonne les références, c'est 16e printemps, c'est de Yunbo, c'est aux éditions Delcourt et c'est vraiment un très très bel album que vous pouvez confier à vos enfants sans problème. Je vous propose de faire une petite pause musicale, alors une pause qui va être peut-être un petit peu plus péchu, mais qui va être dans la thématique de ce qui va venir après. On va partir sur un truc qui est un mélange entre de la musique métal et de la musique folklorique indienne. Ça s'appelle Bloody Wood. Ça peut agresser un peu les oreilles, mais c'est tellement étrange et c'est tellement dans la thématique de ce qui va venir après que je pouvais pas mettre autre chose. On se retrouve après Bloody Wood.
Than a rap man, we're reforming governments. Full on attack, man. Get with the plan. We're here to pull apart the politicians and the God plan. Yeah, we're slaying, but we're saying nothing new. We're just saying you better do the shit you say you're gonna do. None of that fake shit, WWE, 'cause you know we keep it real like the UFC.
Mazaya.
Why, why, God, oh, why, God, oh, why,
êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. C'était Bloody Wood avec Gadar. Je sais pas ce que ça veut dire Gadar, mais en tout cas, c'était bien énervé. C'était bien folklorique. On retrouve facilement les thématiques musicales indiennes. Et c'était le cas. Vous êtes de retour dans la case de Seb, je sais plus si je l'ai dit, c'est pas grave. Et du coup, on est parti en Inde avec deux albums complètement différents. On parlait de jeunesse, donc on va continuer avec les albums jeunesse, avec un album qui s'appelle Janardana, je suis pas sûr de si c'est DM ou DN, c'est DN hein, normalement.
Ouais, c'est N.
De Antoine Ettori, on est toujours aux éditions Delcourt. C'est un ouvrage, alors je vais le passer à Luc, qui va pouvoir regarder, qui m'a emmené aux frontières de plein d'univers différents. Ça m'a fait penser à un mix entre un dessin animé Ghibli et un épisode d'Indiana Jones. Donc j'imagine déjà la fusion du truc. Pourquoi Ghibli ? Parce que on va retrouver la façon dont s'organise, on va dire, un film Ghibli, un personnage qui va aller dans un lieu différent, qui va rencontrer un enfant avec des courses-poursuites. Alors pour ceux qui sont assez vieux, je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler les courses-poursuites qu'on avait dans les Sherlock Holmes, vous savez, celui où il était en mode chien avec son Watson. Il y avait des courses-poursuites avec des gens qui montaient dans des voitures, il y avait 50 personnes sur une voiture et ça faisait des courses-poursuites complètement dingues. On va retrouver cette structure-là, on va retrouver des personnages avec des carrures complètement improbables. Le personnage principal, monsieur Pichon, je sais plus, j'ai perdu. C'est pas grave. C'est Harrison Ford en Indiana Jones, mais en version ultra, ultra musculeuse. Et ça marche très très bien. Alors, vous allez me dire, oui, mais Seb, c'est bien de nous parler de pourquoi toutes ces inspirations, mais de quoi ça parle ? Eh bien, ça parle de ce monsieur Pichot, je ne sais plus. Je crois que c'est marqué derrière, j'ai un doute. Je suis désolé.
Piton.
Monsieur Piton.
Marcel Piton.
J'avais le prénom, mais je n'avais pas le nom de famille.
Marcel Piton,
qui est un marin qui va recevoir un jour un courrier d'un certain Dev Singh, qui est visiblement un de ses amis. Et il va tout de suite partir en Inde pour le retrouver. Il sait qu'en fait, ce courrier, c'est un petit peu un signal d'alerte pour une demande d'aide. Sur place, il va tomber face à une petite fille qui se fait poursuivre par des malfrats. Il va sauver la petite fille qui va en profiter pour lui chaparder sa sacoche et sa veste, en lui laissant sa casquette parce qu'il a dit qu'il aimait bien sa casquette. Alors elle était quand même gentille, elle lui a laissé sa casquette. Et puis il s'est retrouvé un peu détroussé et il va continuer à aller chercher son ami. Et il va apprendre que son ami a disparu depuis quasiment une semaine. Et puis il va commencer à essayer de mener l'enquête. Il va se rendre compte que c'est une espèce de grande chasse au trésor, une grosse enquête qui va l'emmener assez loin. Et puis il va se rendre compte que la petite fille qui lui a dérobé sa sacoche et sa veste n'est autre que la fille de Dev Singh, son amie. Alors je ne veux pas vous en révéler plus parce que ce serait quand même vous divulgâcher un petit peu toute l'histoire et ce serait un petit peu dommage de perdre l'intérêt. Mais c'est un album qui nous dépaye directement. On parlait d'émotion, de douceur. Là, on a de la couleur directe, mais ça donne du peps. Ça envoie un petit peu. On a cet aspect très. On va pas dire cartoon des Ghibli, mais on retrouve cet aspect si particulier. Ouais, je pense qu'il faut la prendre en main pour vraiment se rendre compte du côté Ghibli du truc. Mmh. Et Luc est d'accord. Donc,
oui, tout à fait.
Voilà.
Je suis tout à fait d'accord. Oui. Et il y a une. Enfin, à nouveau, je l'ai feuilleté. Là, il y a une sacrée montée en intensité. Hein. Ouh. Quand on arrive à la fin, là, ça déménage. Hein.
Et c'est pour ça qu'en fait, ça nous envoie. Il y a ce côté aventureux, il y a presque ces scènes d'action sur les James Bond à l'ancienne, en fait, où avec la poursuite en coccinelle, je sais pas si c'est pareil, ça remonte à. Les plus jeunes ne doivent pas connaître cette référence, mais ça emmène, ça dépayse. Graphiquement, c'est super joli. C'est pareil, il faut. Alors, jeunesse aussi, mais il ne faut pas hésiter à y aller, c'est vraiment très très beau.
C'est très impressionnant, très impressionnant. Là, j'ai feuilleté la fin de l'album, là, c'est vraiment... ça déménage.
Il y a des pages avec beaucoup de luminosité, malgré... Alors, luminosité, souvent, en BD, c'est du blanc, mais qui éclate et qui est bien travaillé, et ça marche très très bien.
Il y a des effets de cadrage, il y a des effets de... Alors là, il y a de la pleine page, on y va, mais c'est vraiment... à nouveau, je suis curieux. Je serais curieux de connaître l'histoire.
Et puis, comme dans, encore une fois dans Ghibli, c'est des personnages qui ont une certaine carrure, mais ils ont une espèce de bonhomie. Quand ils sont pas d'accord, ils font une espèce de grimace. Mmh. Enfin, ça marche vraiment très très bien. On se laisse emporter et pareil, hein, comme 16e printemps, on n'a pas vraiment envie de le lâcher une fois qu'on est dedans, quitte à se réveiller un petit peu tard pour aller au boulot le lendemain, mais c'est pas très très grave.
Non, c'est jamais grave.
C'est jamais grave. Il y a un petit cahier aussi, alors ça c'est devenu quasi obligatoire, hein, sur beaucoup d'albums, mais il y a un petit cahier graphique à la fin qui permet de prendre aussi la teneur du dessin sans la couleur. Moi, j'aime beaucoup en fait les choses en noir et blanc. Quand il y a du grain, du travail, ça permet vraiment de découvrir le travail du crayon. Quand il y a qu'un seul auteur, on sait que c'est lui qui a fait à la fois le dessin et la couleur, mais des fois la couleur va gâcher quelques petits détails et c'est toujours intéressant de voir ça.
Oui, là, ça permet de voir comment les personnages se construisent et c'est les essais de physionomie. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ces éléments-là complémentaires, oui.
Et puis avec une certaine habitude, on finit par comprendre certains choix et puis voir que ça fonctionne bien, quoi. Je te laisse redonner les références.
Alors,
s'il te plaît.
C'est Janard. Merci de me laisser de Janardana de Antoine Ettori et c'est chez Delcourt.
Merci. On va rester en Inde, mais dans un autre sujet. Alors là, on va passer plutôt vers les âges adultes. Là, on va passer aux éditions urbaines avec Toutes les morts de Laila Star de Ramvé et Philippe Andrade. Là, on est vraiment sur. On découvre l'Inde, il n'y a pas de problème dans Janardana. Mais là, on a. C'est plus une Inde antique. Une Inde touristique.
Oui, traditionnelle. L'Inde traditionnelle.
Alors que dans les morts de Laila Star, on va découvrir une Inde un peu plus moderne. Bah, je te le passe, Luc.
Oui.
Je te fais lire au fur et à mesure. On est sur vraiment de l'Inde moderne. On est projeté à fond dedans. Et ça marche très très bien aussi. De quoi ça parle? Alors là, c'est un peu plus folklorique. On va aller sur le panthéon indien et la mort est convoquée dans le bureau du grand patron et le grand patron lui dit il y a un nouveau-né qui vient de naître et ce nouveau-né va inventer la vie éternelle, donc du coup on n'a plus besoin de toi, mais au vu de tes bons et loyaux services on va te proposer de te réincarner dans le corps d'une jeune femme qui vient de mourir, la fameuse Laila Star. Et la mort, elle le prend pas super bien en fait. Vas-y, je suis quand même immuable, j'ai été là depuis le début et on me met à la porte comme ça, presque comme une malpropre, ça me plaît pas. Donc qu'est-ce que je vais faire une fois que je suis dans le corps de cette jeune femme-là, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver ce bébé et puis je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Comme ça, je pourrai récupérer ma place. Et bien pas de bol, parce qu'en fait, Laila Star, c'est une jeune femme qui est tombée d'une fenêtre. Donc qui est normalement en état de mort complet. Et la mort va se réveiller dans le corps de cette jeune femme, dans un hôpital, créant une sorte de panique. Et elle va fuir et se prendre un camion. Et donc remourir. Mais la mort peut compter sur une très bonne amie, la vie. Alors qui est représenté par un homme, j'ai pas retenu le nom, c'est Pravi, je crois, ou Prava, dans la divinité japonaise, dans la divinité hindoue. Comme il a toujours vécu avec la mort, a décidé de faire revenir Laila Star. Et en fait, Laila Star va remourir, et la mort, à chacune des morts, va pouvoir se retrouver de nouveau confronté à cet enfant, à Darius Kisha, cette personne qui est censée créer la vie éternelle, à différentes étapes de sa vie. Elle, qui n'aura pas bougé, qui aura toujours la même apparence, va rencontrer cet enfant à l'âge de 8 ans, à l'âge de 16 ans, à l'âge de 30 et quelques années, et jusqu'à sa mort. Et va apprendre ce que c'est que la vie à son contact, en fait. Mmh. Et c'est vraiment hyper agréable. Il y a toute une philosophie, en fait. Si vous la lisez juste comme ça, c'est une belle aventure. Mais il y a toute une réflexion sur la vie, ce que c'est. Et c'est vraiment très beau. C'est très agréable à lire. Le graphisme est très joli. On est sur un dessin qui est un peu particulier, avec des membres très allongés, mais ça marche. On est sur des couleurs vives. On a vraiment l'impression d'être projeté en Inde. Enfin, moi, j'ai eu l'impression de visiter les grandes villes hindoues avec toute cette vie, cette concentration humaine. Il y a une préface de Fabio Moon, qui est un autre auteur de comics, qui explique qu'en fait, il a eu l'impression de revivre cette promiscuité quasi constante de l'Inde en lisant cet album-là. Et on ressent vraiment ça. Et puis on se sent forcément en vie après avoir lu cet album, et on a forcément encore plus envie de profiter de chacun des petits moments qui nous est accordé lors de cette vie. L'avis de Luc, du coup.
Avis comme ça, hein, à la volée, bien évidemment. À nouveau, graphiquement, on est devant quelque chose qui est vraiment très très beau, très fort, avec des options de cases qui sont très particulières, souvent allongées à l'horizontale, à la verticale, comme ça, en le parcourant rapidement. Il y a des couleurs, il y a une mise en couleur qui est vraiment, j'imagine que ça retrace des intensités d'histoire, des couleurs qui sont très belles. À nouveau, ça donne envie de, tel que tu la racontes, hein, ça donne envie de cette espèce de spirale de mort qui revient en permanence. C'est intéressant, et c'est intéressant parce qu'à nouveau, on est, ça semble, du moins de ce que j'en ai compris, on n'est pas au niveau d'une aventure, on est au niveau d'une réflexion sur la vie, enfin de ce que j'ai compris, d'une réflexion sur la vie.
Fait.
Et là, c'est effectivement là où ça devient intéressant. Et le format de l'album, qui est particulier, puisque lui, il est en format.
En format classique, il est un peu plus haut.
Mais plus allongé, ouais. Il est plus étroit, plus allongé. Je trouve que c'est ces recherches de format dans les albums, moi, je trouve que c'est intéressant. La couverture est superbe. Non, c'est ça, à nouveau, ça donne envie de le lire, quoi, tout bonnement.
Et puis, il y a des. Alors, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il y a des petites trouvailles scénaristiques qui sont rigolotes. Il y a tout un chapitre qui est raconté par le biais d'une cigarette qui est fumée par la mort. Et du coup, c'est une cigarette qui nous raconte la vie, sachant que c'est un instrument de mort. Hein, j'apprends rien à personne. Mais c'est très rigolo. Il y a des innovations graphiques. Il y a des personnages qui sont complètement inattendus. Il y a un temple qui est habité d'une certaine vie. Il y a vraiment beaucoup de choses dans cet album. Et tout nous parle de vie, en fait. Et c'est vraiment un ode à la vie, cet album. C'est vraiment top.
J'imagine que ce graphisme, c'est la fumée de cigarette qui flotte.
Non. Même pas. C'est non. Plus un foulard, en fait.
Non, parce qu'il y a un graphisme
sur les pages de
chapitre en chapitre qui passe d'un chapitre à l'autre. Et c'est intéressant, c'est dynamique, c'est mis.
Je l'ai pas trouvé identifié dans l'album en lui-même.
D'accord.
Mais effectivement, elle fume comme un pompier aussi.
Mais le dessin est beau. Hein. Le dessin est vraiment très très beau. Hein.
Il est particulier au départ, on se dit c'est ce que je vais y accrocher, et en fait ça rentre, on rentre très bien dedans. Je vous redonne les références, c'est Toutes les morts de Laila Star, c'est de Ram V au scénario, c'est un dessin de Philippe Andrade, et ça marche très très bien, c'est publié aux éditions Urban Comics. Je vous propose de faire une courte pause musicale. J'aime bien les trucs un petit peu étranges. Et là, en fait, on va se retrouver sur des ennemis jurés. On va faire Marseille-Paris. Les gens, ils aiment bien faire des mash-ups. Et là, ils ont fait un mash-up totalement improbable. Ils ont réuni sur la même chanson IAM et NTM. Ah. Et ça s'appelle L'école du micro de feu.
Génération faux qui t'a kiné. pas le chip ici, pas le chichi. Si tu dérapes pour de chier le jeu, trop de blabla, trop de plagiat, trop de merde sont édictés pour A. Mais c'est comme ça, connecto, le bénéf, le business, le bénéf. C'est ma bombe.
Long mois de travail ont exacerbé mes sens. Je crée un déséquilibre interne afin que le côté yang soit le dominant. Les pieds solidement ancrés dans la terre, je tire les dernières forces de la nature merde nourricière. Je mène les troupes au combat pour défaire les guerriers en contreplaqué de l'école du micro en bois.
J'ai les pare-balles à base de pop. Mais pour le hip-hop je développe. Mais qu'est-ce qu'on a dans le pop. J'ai les pare-balles à base de pop. Mais pour le hip-hop je développe. Mais qu'est-ce qu'on a dans le pop.
Et tant que la France baigne, prendre conscience de toutes ses offenses, face de ses hontes, des leçons à bon compte. Mais quand bien même la coupe est pleine, l'histoire l'enseigne, nos chansons vaines. Alors tant que cela traîne, on ne traîne même encore plus de haine. Une étion ne pourra tirer ce système.
C'est ma bombe. Sabre syndic, je médite, accomplis tous les branches d'un seul pleur. Je défends l'honneur de mon école, fils. J'ai une armée entière de charme, prête à mourir à la gloire de mon étendard. J'ai rassemblé la cuite jusqu'à ce que le nom d'AKH soit légende. Car le soldat guerrier alpha est à droite et lance la flamme sur l'école du micro en bois. J'ai les pare-balles à base de pop. Mais pour le hip-hop, je développe. Mais qu'est-ce qu'on a dans le pop. J'ai les pare-balles à base de pop. Mais pour le hip-hop, je développe.
Un mash-up improbable de IM avec NTM, l'école du micro de feu. C'est un certain Charlie Jones qui a fait ce mash-up. Moi, j'ai trouvé ça très rigolo et très ironique en fait d'avoir ces deux musiques.
Bah oui, pour une fois, ça montre que effectivement Marseille et Paris peuvent. Il peut y avoir des convergences et pas que des oppositions, ni en foot ni en rap d'ailleurs.
C'est clair. On reviendra sur Paris juste après parce que du coup, si je suis mon ordre, en fait, j'aurais dû passer sur Paris tout de suite pour faire la liaison. Mais je voulais te poser une question. Parce que j'ai un autre ouvrage qui est une adaptation d'un roman. Et du coup, on va la faire en mode questionnaire au départ. Si je te dis, alors attention, j'écorche le nom forcément, Andrzej Sapkowski, ça te parle ou pas?
Tu m'aurais parlé de Boris Strugatsky, je t'aurais dit oui, ça me parle, mais a priori comme ça, non.
Alors là, on est plutôt du côté de la Pologne.
Ouais, avec un nom comme ça, oui, ça ne me surprend pas.
Si je te dis Henri Cavill,
ah, non,
adaptation
non,
non. Netflix, jeu
ah,
vidéo.
Oui, non, moi je suis... Ah. Il y a un problème générationnel entre les deux. T'as bien compris qu'il y a un problème générationnel.
Ah, mais là, ça a été tellement un carton, en fait, que ça aurait pu fonctionner. Ouais. Je pense que certains auditeurs ont pu l'avoir. Il s'agissait de The Witcher, qui a été adapté en série Netflix, ouais. Qui a été adapté en jeu vidéo avec un carton assez monumental. Et en fait, si la série de romans a été éditée aux éditions Bragelonne, il est tout à fait logique que les séries dessinées soient publiées par iComics, qui est un label des éditions Bragelonne. Je ne vais pas parler de toutes les séries parce que je ne sais pas s'ils vont toutes les faire, mais je voulais absolument parler de celle-ci, qui est le tome 1, qui s'appelle Un grain de vérité, qui est la première nouvelle en fait de Sapkowski. C'est pas facile à dire. Hein.
Non, les noms polonais sont très compliqués.
Il y a trop de voyelles,
de
consonnes ensemble.
Oui.
Qui est la première en fait que j'ai lue, et c'est ce qui m'a permis de découvrir en fait l'univers du Witcher, puisque on est dans une réinterprétation de l'histoire de La Belle et la Bête. On suit un personnage qui s'appelle Gérald de Rive, qui est un Witcher, une espèce de chasseur de monstres. Alors, j'entrerai pas dans les détails parce que j'ai pas lu suffisamment non plus pour vraiment être un expert. Et il va tomber, en suivant les pistes de certains corps, dans une espèce de grand manoir abandonné, dans lequel habite une sorte de créature qui ressemble beaucoup à un sanglier anthropomorphe, qui parle et qui a une certaines capacités magiques sur la maison autour de lui. Et il va lui raconter son histoire. Le fait que, bah, suite à un problème, il s'est retrouvé, il était un prince avant, il s'est retrouvé dans la peau de cette créature. Alors, on est loin du glamour qu'on peut avoir dans les contes pour enfants. On va dire que si on pouvait éventuellement plaindre le prince de La Belle et la Bête, là on a déjà vachement moins envie de plaindre la personne. Mais il y a quelque chose, il y a une affection, il y a une manière de raconter qui est très particulière, qui fonctionne bien. Donc là, on est sur un dessin qui est complètement, complètement comics pur et dur.
Là, on est dans les comics, ouais. Ah oui, oui.
Si vous n'avez pas l'habitude, c'est sûr que ça peut, ça peut vous pas vous rebuter, mais vous freiner un petit peu dans la lecture. Mais allez-y. Si vous n'avez pas envie de lire la nouvelle, même si elle n'est pas très longue, c'est une manière de rentrer dans l'univers du Witcher qui est franchement efficace. Il y a des jolis, Il y a des personnages qui sont très bien représentés, qui sont éthérés et on va pas dire sexy, même s'il y a un peu de ça, mais qui sont une espèce d'attirance, je sais pas comment le qualifier, qui marche très très bien. On comprend tout de suite les différents tenants et aboutissants de l'univers du Witcher. C'est très efficace. Enfin, je vois pas quoi dire de plus. Et puis, alors je sais qu'il y a un petit sticker. On parle pas des prix, mais on est sur un prix à peine rond et vraiment pas cher jusqu'à octobre 2022. Si vous voulez découvrir du comic, si vous voulez découvrir l'univers du Witcher, bah c'est vraiment, franchement, une vraie bonne porte d'entrée. Donc, faut pas hésiter, sachant que voilà, c'est publié par iComics et qu'ils ont fait de belles choses. Le seul regret qu'on pourra avoir, c'est que ça passe vite. C'est un peu court. On est sur un je vais pas compter le nombre de pages, mais c'est pas énorme.
Il y a pas, il y a à peine 48 pages là.
Oh, il y a un petit peu plus parce que c'est assez dense quand même. Mais j'ai pas le nombre de pages. Bon, c'est pas grave. Mais ça donne vraiment envie. On est sur du comics au format nouvelle en fait. Donc c'est vrai que ça marche très très bien. Donc voilà, n'hésitez pas. The Witcher, un grain de vérité, c'est le tome 1. Donc c'est l'introduction et c'est sans doute la première nouvelle que Sapkowski a dû créer. Ça a été adapté au scénario par Jacek Rembis et Travis Curet. Le dessin est de Jonas Schwarf. Et je voulais pas vraiment m'aider hein, cette fois-là. C'est une traduction de Nadège Gaillon de Bonnet, directement d'après la traduction du polonais. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est une belle découverte et puis c'est encore une fois, je leur dis, une bonne porte d'entrée. Tu connaissais pas du tout hein, l'univers du Witcher.
Bah, en fait, il y a eu beaucoup de communication autour de Witcher.
Ah bah oui.
Mais non, pas du tout, du tout. Mais ça me, je suis curieux d'aller voir ça parce que voilà, je suis toujours curieux des romans et pourquoi pas les romans polonais. Donc oui, tout à fait. J'irai jeter un œil, mais je connais. Non, j'ai vu les têtes de gondole avec The Witcher partout. On a été obligé d'en entendre parler dans la dernière période. Mais voilà, je connaissais pas. Non.
Bah c'est une saga qui marche vraiment bien. Encore une fois, je peux pas en parler beaucoup plus que ça, puisque moi j'ai lu principalement les deux premiers recueils de nouvelles qui ont pu être édités. Et je crois qu'on est sur 4 ou 5 romans derrière. J'ai pas vu la série Netflix, donc je peux pas forcément en parler. Ça pourrait être un sujet à faire sur les prochaines, mais c'est peut être pas mal. Dis-moi, Luc, t'es calé en histoire ou pas?
Dans ces histoires-là, il faut toujours répondre non parce qu'on se fait toujours piéger.
Alors moi, c'est une période que je connais assez peu et puis qu'on aborde assez peu à l'école. C'est la période de la commune, la commune à Paris. Là, on est dans un ouvrage qui est encore une fois un gros travail. Alors, c'est de nouveau les éditions Delcourt. Là, on a un ouvrage où il n'y a pas de pelliculage, mais il y a un vernis sélectif qui rend l'ouvrage très joli. Ça donne un aspect un peu grimoire avec son marron de couverture. Ça s'appelle L'Enfer pour Aube. C'est de Philippe Pélaz au scénario et Tibur Sauger au dessin. Ça s'appelle Paris Apache. Et là, on est dans... C'est aux éditions Soleil, pardon, c'est pas Delcourt. Mais on a quand même la même fabrication, c'est un petit peu la même maison. Hein. Là, on est dans le Paris 1903, c'est juste après, c'est le début de la commune, après les barricades, si je me plante pas.
1903
hein. Ouais.
Ah non, on a déjà fini tout ça.
C'est déjà fini.
On a déjà fini tout ça, 1870, 1871, Commune de Paris, Le Cri du Peuple, Tardi.
Exact.
Donc, on est après, début du 20e, on est déjà bien après, tout ça s'est réglé, hélas, c'est tout ce qu'on peut dire, mais la Commune a duré tellement peu de temps que de toute façon, c'était une affaire pliée, ouais.
Ok. Mais du coup, on est dans ce Paris post-commune, où tout tente à se reconstruire, à se moderniser. Et quand j'ai dit que j'ai tenu l'an d'histoire, de toute façon, j'ai pas menti. Hein.
c'est vérifié.
C'est vérifié. Et en fait, on a les premières rames de métro, de tramway qui sont mises en place à Paris. Et la police est confrontée à un meurtrier, une sorte de personnage énigmatique qu'on voit bien sur la couverture, avec son long chapeau, un foulard rouge autour du cou, foulard qui est très symbolique sur cette période-là, et un long manteau qui masque complètement sa silhouette. Et ce personnage-là, en fait, va trucider des gens sans qu'on ne sache vraiment pourquoi, en leur laissant un louis d'or dans la bouche. Et on va suivre, en fait, une enquête dans ce Paris. Alors, on découvre vraiment un Paris qui est crade, un Paris qui est... Enfin, qui est pas crade, ça tranche, en fait. Il y a des zones très propres et puis des zones complètement à l'abandon. Ces zones, en fait, où vivent ce qu'on appelle les Apaches. Moi, je suis né dans l'histoire, donc.
Oui.
Même s'il y a un petit cahier graphique, enfin pas un petit cahier à la fin qui recontextualise, et on va tout de suite accuser les Apaches, en fait, de ces meurtres. Sauf que, ils y sont pas forcément pour quelque chose, mais c'est vrai que c'est. On replonge dans cette période un petit peu sombre de Paris. J'ai appris ce qu'était, en fait, cette zone où vivaient les Apaches, qui était à la base une zone pour justement empêcher des attaques, qui devait rester une zone franche, libre de rien. Et quand on n'a pas su où les mettre, ces gens-là, on leur dit, allez, faites des baraques là-dessus, on s'en fiche, c'est pas pour vous.
Même chose pour les bidonvilles, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est à ces endroits-là qu'on a construit les bidonvilles.
Ouais, donc il faut arrêter de faire des zones franches, les gens. Ouais. Construisez des vrais bâtiments pour les gens. Et puis, voilà. Donc c'est assez passionnant à suivre. Alors, si vous êtes féru d'histoire, je pense que vous allez déjà beaucoup plus y prendre plaisir que moi, parce que j'étais un peu perdu, hein, vraiment, dans cette histoire, au départ. Et puis, graphiquement, on a le trait de Tiburce Auger, qui est un trait qui est très détaillé. Il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de choses. Tout est en bichromie. On est sur du gris noir, avec des notes de rouge. Alors, la logique, c'est effectivement de rappeler cette ceinture, ces foulards que brandissent les Apaches. Et, alors, pas les Indiens, hein, ce sont vraiment les gens qui habitaient dans cette zone-là.
Le nom des Apaches, oui, c'était leur surnom. Oui,
d'ailleurs, il y a une petite réflexion à un moment d'un personnage qui dit les Apaches, c'est le nom que nous donne le journal, parce qu'on ne s'appelle pas comme ça, on s'appelle, j'ai perdu le nom qu'ils se donnaient entre eux. Donc, bon, encore une fois, une appropriation des riches vis-à-vis des pauvres. Et ça marche très bien. On est vraiment happé dans cette enquête. Alors, il y a quelques fils où on se doute un petit peu de qui peut être cette personne. On suit l'enquête avec les enquêteurs, qui est ce tueur, en fait, avec son grand chapeau et son foulard rouge. Et on suit les enquêteurs sur ces pistes-là. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. C'est très agréable à suivre. Et... j'avais pas lu le petit cahier de contextualisation à la fin. Et c'est là où on se rend compte que Philippe Pélez a fait un boulot assez sympa, c'est qu'il a pris des articles de presse de l'époque et il les a intégrés à son récit. Il y a eu des événements, il y a eu un incendie, par exemple, dans un magasin.
Bah oui,
et on a la coupure de presse.
L'incendie du Bon Marché, il me semble que c'est l'incendie,
c'est ça.
Du Bon Marché. Ouais.
Et on sait, il l'a intégré dans le roman, ça a une raison. Dans c'est presque un roman graphique, hein, si je voulais utiliser le terme, et recontextualiser tout ça et construire une histoire avec le canevas historique et des faits dont on n'a pas vraiment le fond derrière, c'est vraiment hyper intéressant. Le dessin est superbe. Si vous aimez bien les dessins qui sont légers et faciles à suivre, c'est pas ça qu'il faut prendre. Hein. Ça demande quand même une implication, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de choses qui sont faites, et c'est très détaillé. Et c'est vraiment une belle BD à parcourir.
Et puis il reprend effectivement, il parodie les unes du Petit Journal, enfin qui était le journal de l'époque, avec toujours une grande illustration sur la première page. Non, c'est intéressant. Hein. C'est, on parlait tout à l'heure effectivement de. Enfin, je citais en référence Tardi, le cri du peuple. Hein, on n'est pas dans le dessin de Tardi, hein, loin du de là. C'est un dessin qui est très chargé. Là, on est dans un dessin très chargé, très actif. Il y a du mouvement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvement. Mais c'est, ouais, ça a l'air, enfin, c'est intéressant. Et en plus, oui, ce choix de colorimétrie avec beaucoup de gris, de blanc, de noir.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lavis, en fait, sur le dessin.
C'est du lavis et il y a le rouge qui surgit, quoi. Régulièrement, le rouge qui surgit, je trouve ça intéressant. Hein.
Et ouais, c'est une belle histoire, je trouve ça intéressant. Alors, c'est une histoire en plus qui va être courte, puisque c'est une histoire qui sera conclusive en deux tomes.
Ouais. C'est bien ça. C'est bien.
Voilà.
Voilà, c'est bien. Les séries longues de BD, c'est toujours un peu fatigant.
C'est clair. Bah, je te laisse redonner les références.
Donc, Enfer pour Aube, sous-titré le tome 1 Paris à page, c'est de Philippe Pérez et Tibur Sauger, et c'est publié aux éditions Soleil, aux excellentes éditions Soleil.
La classe. That's all, folks. Vous venez de l'entendre, c'est Porky qui signale la fin de l'émission. Dans quelques instants, vous retrouverez ceux qui en mettent un gros et qui en ont un gros, le gros bazar. Je crois, j'espère, peut-être. Habituellement, il est toujours en train de faire les idiots à la fenêtre du studio, mais là, visiblement, non. Bon. Peut-être qu'ils seront sages ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Vous pourrez retrouver le podcast de l'émission dans quelques instants sur le www.radio-g.fr, onglet La Case de Seb. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Ah bah oui, ils sont là, les grands bazars. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? N'oubliez pas, demain de 22-23h, l'émission Les Voix du Scénarium. Bon, on peut se retrouver là. On a encore quelques instants. Est-ce que tu as une envie particulière, Luc?
Non, pas particulièrement. Merci en fait de m'avoir invité à participer à cette émission. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à y venir. Hein, et puis, je découvre plein de choses. Donc, voilà, ça me frustre parce que finalement, j'ai pas assez de temps en réalité pour tout dire. Mais vraiment, aujourd'hui, il y avait vraiment une série de très belles, belles découvertes. Hein, c'est vraiment intéressant.
Ouais. Bah, c'est le but de l'émission. C'est vraiment de faire découvrir les choses comme si on était un copain qui fait découvrir des BD aux autres.
Ouais. Donc, merci pour cette découverte. Ouais.
Bah,
ouais.
Merci pour la découverte aussi, parce que c'est pas moi qui ai sélectionné ta BD. Et vraiment, ça donne envie aussi. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle case de Seb. En attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, je ne souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? Mais c'est fini. Rentre chez toi. Everything went back to how it was, but nothing ever felt right. My eyes.